de retour dans ce direct depuis le festival Esquisse numéro 3 organisé par la compagnie Ophrénie Théâtre à Valdrome. Eh bien, on accueille Chloé au micro. Salut Chloé, alors parle bien devant, hein, comme ça.
Bonjour.
Ah, super, ça passe bien. Eh bien, Chloé, tu fais partie de la compagnie Les Maraudeurs.
Oui.
Vous avez joué, vous ouvriez le festival sur le thème Chemin de Traverse. C'était la place Saint-Jean ce matin à 11h30 avec Les Maraudeurs, tout simplement.
Oui, le spectacle s'appelle Les Maraudeurs et l'association s'appelle Maraudeurs et Compagnie. Et on avait déjà joué hier soir à Beaurières.
Chloé, présente-toi un petit peu. D'où tu viens? C'est quoi ton parcours?
Je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans aujourd'hui.
C'est vrai, bah bon anniversaire Chloé.
Oh. Je suis trop contente de fêter mon anniversaire ici parce que franchement c'est un petit paradis en fait.
Ouais. Tu viens d'où?
Alors j'ai grandi dans les Hautes-Alpes. Après à 18 ans je suis partie à Lyon pour faire une école de danse. Et puis de là j'ai travaillé avec des petites compagnies de danse lyonnaises avec lesquelles j'ai fait mes premiers cachets. Et puis à Pôle emploi ils m'ont dit danseuse c'est pas vraiment un métier, faut faire une autre formation. Alors j'ai dit d'accord mais dans le théâtre. Et donc là j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle La Seyne-sur-Saône à Lyon. C'est une école qui dure 3 ans, une école professionnelle. Et à la sortie de ça, j'ai commencé à faire un petit peu de théâtre de rue, enfin plein de petits projets à droite à gauche. Et j'ai découvert l'itinérance avec une association qui s'appelle Babelgum, qui est dans le Lot et qui organise des festivals en milieu rural, en caravane et en yourte. Et un jour, cette association a été invitée en Bretagne par une autre association qui s'appelait Idées Détournées et qui organise des événements aussi et qui fait plein d'ateliers avec les habitants, qui est très sympa. Donc on est parti du Lot avec nos petites yourtes et nos petites caravanes pour aller jusqu'en Bretagne pour ce festival dans lequel j'ai rencontré Thomas. Donc Thomas il n'est pas avec moi parce qu'il est allé voir un spectacle en ce moment même. Donc moi je viens plutôt du monde du spectacle, j'ai une formation dans ce domaine-là. Et Thomas lui il est ébéniste de formation, il a travaillé beaucoup dans des chantiers navals. Et puis, après un licenciement économique, il s'est mis à faire ses petites constructions dans son atelier et beaucoup de récupération et de brocante. Donc, pour ceux qui ont vu le spectacle, ils comprendront d'où vient la plupart de notre matière première.
En fait, votre spectacle, il est dans une caravane.
Oui.
Vous êtes des nomades.
Oui.
Oui, pour de vrai.
Alors, on se dit plutôt itinérant que nomade. Je crois que la définition entre nomade et itinérant, c'est qu'un nomade, il n'a pas de pied à terre. Un itinérant, il a quand même quelques adresses. Donc nous, on a quand même quelques adresses. On n'est pas propriétaire, donc même pas de notre caravane en plus.
C'est vrai.
De notre camion, c'est déjà ça. Non, on n'est pas propriétaire de notre caravane parce que c'est cette fameuse association qui s'appelle Idées Détournées où travaillait Thomas qui nous l'a mise à disposition pour une durée de 2 ans, qui nous a fourni l'argent pour pouvoir la retaper en entier et qui nous a dit on vous la prête pendant 2 ans renouvelables, là on en est à la 3e année, à condition que vous fassiez des spectacles avec. Donc tant qu'on fait des spectacles avec, on peut l'utiliser. Donc effectivement notre spectacle se passe devant la caravane. On habite aussi dans cette caravane.
Ah bon? Avec le petit bébé?
Avec le petit bébé. Mais bon, les gens qui habitent dans une caravane, ils sont souvent hors de la caravane, en fait. Donc, en fait, on habite partout, quoi. Et on se balade avec notre petite caravane à la rencontre du public, des gens qu'on croise. Le siège social de l'association, il est en Bretagne parce que, en France, en 2016, on a quand même besoin d'avoir une adresse. Donc, on a notre petite adresse à Lorient avec une très gentille personne qui nous fait suivre régulièrement notre courrier postal. Et puis, le reste de l'année, on voyage un petit peu en fonction des dates de spectacle qu'on arrive à trouver ou des lieux de résidence où on peut être accueilli, souvent entre la Bretagne, le sud-est, le sud-ouest. On revient de Cherbourg et on repart en Suisse.
Wow.
Voilà.
Et du coup, ce spectacle Les Maraudeurs, vous l'avez écrit?
Oui.
Vous?
Oui.
Oui. Imaginez aussi, parce que c'est pas un spectacle.
Spécialement pour l'itinérance, d'ailleurs.
Oui. Donc, on est parti de la caravane, puisque si on voulait pouvoir garder cette caravane, il fallait qu'elle soit indispensable à notre projet artistique. Donc, on s'est dit, on va jouer.
Je veux dire, comme une pièce de décor, quoi.
Avec la caravane. Ouais. Faut qu'elle soit là. On voulait pas que ça soit dedans, parce que comme c'est déjà notre maison, on voulait pas forcément que ce soit à l'intérieur. Donc, comme décor, c'est pas mal. Avec Thomas, on adore aller récupérer des trucs au fin fond des bennes des déchetteries.
Ah bon? Tiens, vous escaladez les grillages?
Je connais quelqu'un à côté là qui fait pareil.
Moi j'ai vu votre spectacle hier soir, ça m'a beaucoup fait penser à ma vie.
Ouais. Ouais. Oui, car on peut le préciser, c'était le but un petit peu de ce spectacle, c'est qu'il aille tourner sur d'autres communes avant de faire Esquisse.
Oui.
Ce qui a marché au moins une fois, c'est déjà pas mal.
Oui.
Alors vas-y, reprends donc sur cette caravane.
Alors donc on avait cette caravane et puis moi je viens d'un théâtre où c'est le plateau nu, juste le comédien tout en noir et puis on sublime le comédien.
Ah ouais,
et puis Thomas est arrivé avec ses milliards d'entonnoirs et de passeurs et m'a dit non mais moi je veux vraiment faire quelque chose avec tout ça. Et donc on a essayé de faire quelque chose ensemble, un mix entre ces deux univers, du théâtre très contemporain et Thomas qui avait envie que ça soit plus orienté marionnette, théâtre d'objets.
Sculpture. Hein.
Sculpture.
Clairement, hein. Enfin, c'est une exposition.
Oui.
Ben oui.
Ouais.
Désolé. Hein.
Non mais ça l'est. Il y a d'ailleurs des fois des gens qui nous demandent si on veut bien vendre nos petits personnages, mais sauf que bon, c'est pas possible. Sinon on peut pas continuer le
spectacle. C'est des sculptures qu'il fait en fait pendant le spectacle.
Oui.
Pour expliquer un petit
Alors,
peu.
Alors, on faisait des sessions d'improvisation devant la caravane, et puis un soir, en rentrant de la déchetterie, on a trouvé un énorme moulin à légumes, mais vraiment un énorme moulin à légumes pour faire de la purée pour je sais pas combien de personnes.
Pour un festival.
Et puis Thomas, il me le lance en me disant tiens, ça, tu le mets dans le tas des trucs qu'on garde. Et moi, je lui dis non, mais c'est. Il est énorme ce truc, il va nous servir à rien. Si, on le garde maintenant. Enfin bon, voilà. Et puis, ok, finalement, on le garde. Et puis, on le glisse sous la caravane en se disant, bon, on verra bien. Et puis, on faisait toujours nos sessions d'impro. On cherchait un peu le thème de notre spectacle, ce qu'on allait raconter, tout ça. Et puis, à un moment, dans une impro, le moulin à légumes ressort, quoi, réapparaît. Et puis là, on s'est dit, ah, mais en fait, ça, c'est le nœud du spectacle. Il rentre pas dans la caravane. Et puis, en fait, notre spectacle, du coup, à cause de ce moulin à légumes, raconte l'histoire de Léopold et Gudule qui vivent donc dans ce petit espace qui est la caravane. Léopold y ramène toujours des milliards de trucs, beaucoup de moulins à légumes, parce que Léopold, c'est un fan de moulins à légumes. Et Gudule, un jour, elle en a tellement marre qu'elle se met à tout balancer par les fenêtres, en racontant au passage un petit peu leur vie commune et celle de Léopold. Et puis Léo ramasse seulement certains entonnoirs, seulement certaines passoires.
Enfin, il fait des créations.
Tout est calculé. Il y a un ordre de rangement incroyable à l'intérieur de la caravane. Et c'est presque de la chorégraphie, du tempo. Quoi,
parce qu'on imagine si en plus vous vivez dedans, il y a d'autres choses que ce bordel dans la caravane.
Oui, alors par contre, tout le matériel du spectacle est rangé dans le camion quand on ne joue pas.
Ah bon, ouais,
donc voilà. Et puis, donc, il rattrape certains objets, il les assemble, il les empile. Et puis, moi, je fais un peu distraction pendant ce temps parce que le personnage de Gudule est tellement bavard et dégouline un peu comme ça sur le public, quoi. Que du coup, il y a certains spectateurs qui se sentent vraiment obligés d'écouter tout le texte. Et puis, selon les spectateurs, ils se rendent compte à des moments différents que, en fait, pendant ce temps, Léopold, il a ramassé certaines choses et il en a fait des personnages. Gudule, elle est tellement prise dans sa colère qu'elle, elle s'en rend pas compte du tout. Et puis jusqu'au moment où elle rentre dans sa caravane pour faire de la cuisine, donc là, ça lui permet de finaliser vraiment tout son petit voyage, son petit univers qu'il crée, quoi. Et puis quand Gudule ressort très énervée parce qu'elle ne retrouve pas son moulin à légumes, comme par hasard, elle se rend compte qu'il a fabriqué tout ça pendant qu'elle était en train de cuisiner. Et en fait, elle se laisse happée par cette magie, elle en oublie complètement que c'était les trucs qu'elle avait demandé à
la
poubelle
aussi, enfin, à partir de là ça devient vraiment très poétique
et tout d'un coup on se découvre qu'on est devant une expo.
Bah ouais, voilà, carrément.
C'est ça.
Alors il y avait une des pistes de possibilité de spectacle, que ça soit une visite d'exposition. À un moment on pensait à ça, ou alors on pensait aussi à un style, une brocante un peu théâtralisée. Puis bon, finalement c'est un peu en entre deux, donc c'est pas mal, quoi. Voilà.
Et comment on écrit quand on a un enfant et qu'on vit dans une caravane et qu'il faut en même temps jouer, quoi, et vivre,
hein. Alors, le spectacle a été créé avant l'arrivée des Louans. Donc, on a retapé la caravane en 2013. On a créé le spectacle pendant l'hiver 2013-2014. On a fait quelques premières dates pendant l'été 2014. Et puis là, ça, c'est important de le dire quand même, au mois d'août 2014, donc il n'y avait pas encore du tout de projet de bébé, hein, on a rencontré un ami, Arnaud Touzet, qui a fait l'école Lecoq, qui est une superbe école de théâtre vraiment dans le corps, et vraiment une très bonne école. Et puis lui nous a dit, j'aime beaucoup ce que vous faites et votre univers, mais je pense que je peux avoir quelques conseils pour vous emmener un petit peu plus loin. Et alors, on lui a fait confiance et on a travaillé ensemble, d'arrache-pied, et est arrivée cette forme qu'on a maintenant, qu'on pense définitive et où on peut... Il y a toujours des petites choses à refaire, c'est comme sur une maison, c'est jamais fini, mais en tous les cas, là... Nous, on a l'impression que c'est quelque chose qui est équilibré. Et puis, à l'intérieur, nos personnages ont un parcours émotionnel suffisamment diversifié pour qu'on ne s'ennuie jamais en le jouant. Là, on doit en être vers les 50e représentations. Et c'est toujours un plaisir immense de jouer.
Il évolue, d'ailleurs ?
Il y a des petits détails qui évoluent, oui. Ben déjà, c'est jamais pareil en fonction des publics. Hier soir, à Beaurière, on a eu une écoute... Incroyable. C'est moi.
C'est-à-dire silencieux, posé.
Alors, étonnamment, c'était très silencieux, alors que habituellement, il y a toujours des gens qui rigolent ou il y a quand même des expressions, des enfants qui parlent et tout. Là, les enfants n'ont pas bronché, les adultes n'ont pas bronché, mais on sentait que tout le monde était vraiment là, présent et bienveillant. On s'est senti à l'aise. Enfin, vraiment, hier soir, c'était. Moi, je me suis régalée, quoi.
Bah, tant mieux.
Et donc, aussi, du coup, hein. Pour finir, maintenant, il y a Elouan qui nous a rejoint. Donc, l'année dernière, il a fait la tournée avec nous. Il était tout petit, c'était un peu sportif, mais on a quand même réussi à faire les festivals qu'on voulait faire, dont Chalon dans la rue. Et c'est Chalon dans la rue qui nous a un peu permis aussi de trouver de nouveau des dates pour cet été. Et puis maintenant, on est en train de commencer à réfléchir à une nouvelle création, mais c'est encore trop frais pour que je puisse vous en parler.
D'accord.
Voilà.
Il est intégré dans ce spectacle ou alors tu trouves toujours quelqu'un pour le garder ?
Je trouve toujours quelqu'un pour le garder, ouais. Ça, c'est un de nos grands débats. On n'a pas encore pris de décision, mais c'est pas facile. On n'a pas non plus envie de lui faire supporter le poids de tes fils de comédien, donc t'es obligé de jouer, quoi. C'est... Je sais pas.
Il peut si ne demande... pas jouer et être là parce que de toute façon, il est là. Oui. Et... Ça deviendrait quelque chose de décalé, enfin bon.
Après, moi, j'aurais peut-être peur aussi qu'il intervienne et que, mine de rien, c'est quand même assez bien réglé, quoi, ce spectacle. Et des fois, il se passe certaines choses qui font qu'on déraille et c'est...
Oui, puis il y a des choses qui volent.
Ouais, c'est pas forcément agréable.
C'est dynamique, hein, c'est un spectacle ouais. Dynamique. Tu changes ta voix pendant le spectacle ?
Oui, oui, oui.
Pourquoi ce choix ?
Tu nous fais un peu de gudule, vite fait.
Ouais, fais-nous du gudule.
Qu'est-ce que c'est que cet énorme moulin à légumes, Léopold ? Encore un truc que t'allais récupérer dans un coin de caniveau ? Et tu trouves pas que c'est un petit peu disproportionné par rapport à la taille de la caravane ? Oh mais je la connais la chanson, on sait jamais s'il y a des amis qui reviennent et que tous les framboisiers de la terre se mettent à fleurir en même temps, faut bien qu'on puisse faire de la confiture pour tout le monde !
En fait, il y a que toi qui. Il y a que Dudule qui parle pendant le spectacle.
Oui, Léopold, il est muet.
Ouais. Pourquoi ?
Tout simplement parce que Thomas, il avait jamais fait de théâtre avant et que, en fait, au début, c'était peut-être juste moi qui devais jouer, pas forcément lui. Et puis, au fur et à mesure, quand même, j'ai bien envie, mais bon, pas complètement. Enfin, bon, voilà. C'est... Et
ah,
puis.
Bon,
alors, il y a des fois, il dit. Des fois, il dit un ou deux mots, en fait. Mais là, il y a quelques. Fois où on se dit que finalement c'est pas mal de vraiment pousser dans les extrêmes, un muet et l'autre complètement bavarde, comme si après autant de vie commune, bah lui il est devenu complètement muet et elle complètement
insupportable. Il s'auto-annihile, voilà, je ne dirai plus rien, de toute façon ça sert à rien.
Ce qui l'empêche pas d'agir. Ce qui l'empêche pas d'agir.
Dans sa tête en fait, dans un univers.
Ouais. Ouais.
Quelle est la part de vrai entre votre couple
Aucune.
Tu vois, on
dit
le couple à l'arène
et le couple
à la ville. Alors, quelle est la part de vrai entre les deux ? Et pour rejoindre un petit peu aussi tout ce qu'on a pu évoquer avec les compagnies d'avant, quelle émotion vous travaillez-vous pour vous ? Et qu'est-ce que vous cherchez à solliciter
Alors, très franchement... On savait un petit peu en le montant ce spectacle qu'il fallait que ça soit quelque chose qui soit quand même assez proche de nos personnages pour pouvoir le jouer assez facilement. Et puis quand on joue en rue dans des petits villages avec pas forcément des conditions, c'est pas comme quelqu'un qui joue dans un théâtre où il y a des coulisses où il peut se préparer pendant 3 heures s'il doit se préparer pendant 3 heures.
Il y en a pas beaucoup ici hein, qui...
Non. qui... Non mais moi j'ai appris ce théâtre là en fait.
Ah oui.
Où on prend vraiment le temps de faire un échauffement adapté au personnage qui est derrière et tout. Et puis là, en rue, il se passe des trucs, t'es en train de t'échauffer, puis d'un coup, il y a un chien qui vient pisser à côté. Enfin,
c'est la
pour
vie,
moi,
quoi.
C'est presque un autre travail, en fait. Mais du coup, partant de ce constat-là, moi, je savais que ça serait peut-être plus simple si on prenait des personnages qui étaient... Pas qui nous ressemblaient, parce qu'on n'est pas non plus comme ça dans la... Enfin, j'espère que je ne suis pas aussi chiante, parce que sinon,
ouais,
il serait parti depuis longtemps. Mais je suis quand même sautait, quelqu'un de bavard et il est quand même quelqu'un de discret effectivement dans la vie. Et ça, on était conscient de ça dès le début quand on a fait le spectacle et c'était peut-être une petite facilité qu'on a apprise aussi. Ouais.
Et quand tu parlais justement de création d'un nouveau spectacle, ça veut dire que ce travail comique de comédien, de troupe, devient quelque chose, et on ne l'a pas pour qu'il nous le dise, mais devient quelque chose qui l'intéresse, Thomas, là maintenant,
oui.
Alors que ce n'est pas du tout sa fibre au départ.
Oui.
Et comment ça s'est passé? C'est quoi? C'est ton engouement, toi, pour cette profession, ce milieu?
Je pense qu'au fond de lui, il avait envie depuis longtemps, mais Thomas, c'est un petit peu comme une espèce de boîte magique où quand on le voit, on ne se rend pas compte du tout de la quantité de choses qu'il y a derrière et qu'on découvre au fur et à mesure. Et je pense que dans une des petites portes, il y avait ça caché quelque part, et il est de plus en plus à l'aise sur scène, et il n'arrive pas encore à dire officiellement qu'il est comédien, parce que c'est vrai que pour l'instant, il est dans le rôle de Léopold, donc il y a pas encore, on n'a pas encore travaillé d'autres rôles avec lui, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on prend un très grand plaisir tous les deux à faire ce spectacle. Et lui, il m'a même dit il n'y a pas longtemps que le moment où il était le plus heureux, c'était pendant qu'on jouait. Donc forcément, c'est que ça lui plaît.
Oh merde.
Alors, bon, ok.
Mais en fait, c'est génial parce que comme on passe notre temps sur les routes et puis à charger, décharger les trucs, à faire de la diffusion, à mettre à jour le site internet.
Tu veux dire, il y a un côté chiant.
Enfin, tout un tas de trucs qui est vraiment pas intéressant. Et puis là, le spectacle, c'est comme la pépite qui fait que tout le reste du temps, on fait tout ça pour
tout
ça.
Tout prend un sens, en fait.
Oui, oui, vraiment. Vraiment, voilà. Et pour en revenir à l'itinérance, tout à l'heure, vous parliez des nomades et
ouais,
des itinérants.
Je voulais revenir encore avec d'autres questions.
Je voulais dire que on fait partie d'une association qui s'appelle le Centre International pour les Théâtres Itinérants, le CITI. C'est une association qui regroupe une soixantaine de compagnies et de compagnons de route qui sont itinérants et qui, en tous les cas, défendent les valeurs du théâtre itinérant. En l'occurrence, déplacer avec soi un univers imaginaire qui dépasse le temps de la représentation, puisque déjà, rien que de passer dans un petit village avec une caravane, ça peut porter au rêve, au questionnement et à la rencontre.
Ouais.
Et en plus, elle garde un peu sa tête. Enfin, je veux dire, au niveau décor, vous n'êtes pas tout en train de la repeindre spécialement.
La nôtre de caravane, oui. Ouais.
Elle a une identité.
Elle est comme ça. Elle est comme ça depuis 1963.
Waouh.
Mon année de naissance.
Et puis, ce Centre International pour les théâtres itinérants défend aussi forcément une proximité avec le public. Et moi, à travers tout ça, en fait, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes et quand j'étais petite, pour aller voir un spectacle, en fait, c'était juste une mission impossible, quoi. Enfin,
c'était dans un bled perdu.
Ouais, il y en avait pas. À Rizoul. Bah si, il y en avait, mais faut prendre la voiture. Il y a une heure et demie de route.
Oui,
tu rentres le soir. Enfin, quand t'as 8 ans, tes parents, ils t'emmènent pas faire une heure et demie de route aller, une heure et demie de route retour pour voir un spectacle, quoi. Enfin, c'est.
T'avais cette culture, toi, enfant, du spectacle.
Oui, bah, j'ai des parents qui sont artistes, artisans, qui sont potiers tous les deux, donc, et qui font beaucoup de peinture et,
oui, donc,
et de calligraphie. Et,
puis
depuis toute petite, ils m'ont fait faire beaucoup de danse et tout, donc j'avais déjà l'ouverture sur ça. Après, ils n'avaient pas forcément la matière à portée de main pour m'emmener voir tout ça, quoi. Enfin, si on est adhérent à ce truc-là, ce Centre International pour les Théâtres Itinérants, c'est parce que pour moi, c'est un petit peu une revanche aussi sur ce passé et devenir dans des petits villages comme ici. Je me dis, il y a peut-être plein d'enfants qui, comme moi, n'avaient pas trop la chance de voir de spectacle. Et ben là, grâce à cette petite structure, ils vont pouvoir voir des spectacles. Et il y a Thomas qui est là. Je me sens un peu plus en sécurité maintenant.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas, tu veux nous parler un peu d'où tu viens et comment tu entres dans ce projet ? Pour tout de suite qu'on ait ta voix.
Eh bien, moi je viens plutôt des arts appliqués que du théâtre, dans le sens où j'ai une formation d'ébéniste à la base, et donc beaucoup de travail du bois et de la matière, qui m'a amené à travailler avec des antiquaires et des brocanteurs à un moment donné de mon parcours. Et donc là, je suis tombé sur un univers pour lequel je me suis passionné, qui est celui des vieux objets. Des témoins du passé et du coup je suis tombé complètement dingue de
la patine mécanique.
De la, oui, pas forcément des mécaniques, mais enfin même des patines, des objets usuels du quotidien, en fait, qui avaient une esthétique complètement différente de ce qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. Et donc j'ai commencé à fabriquer des cabinets de curiosité, et c'était très statique. Je travaillais à partir d'armoires, des vieilles armoires que je remplissais de plein d'objets. Et je faisais des accumulations comme ça de matière et d'objets. Et puis ça restait comme ça, c'était beaucoup pour de la déco, pour de l'événementiel, pour du festival et tout. Et en 2013, j'ai rencontré Chloé, qui, elle, venait pour le coup du monde du théâtre. Et de cette rencontre est née l'envie de développer un projet où on pourrait mêler nos univers, à savoir, elle, le théâtre beaucoup plus contemporain que ce que je connaissais, et donc la plastique et les arts appliqués et l'assemblage d'objets comme on le pratique aujourd'hui dans notre spectacle Le Maraudeur.
Avec cette dimension un peu intéressante, le cabinet de curiosité, c'est quelque chose qui est figé, tu l'as dit.
Ouais.
Et là, c'est en création, en développement, fabriqué devant le public.
Ouais.
Et démonter ensuite ouais. Très rapidement en fait.
Ouais, bah, c'était le défi. C'était vraiment le défi, c'était de pouvoir donner vie à toutes ces constructions. Puisque moi j'avais commencé à les développer tout seul dans mon coin, mais d'une manière très sculpturale et totémique, on va dire ça comme ça. Presque je les mettais sous cloche et je les mettais comme ça dans des galeries ou dans.
Tu les soudais même. On pouvait plus les démonter.
J'ai jamais trop.
Non,
j'ai jamais été soudeur.
Bon.
Mais j'étais toujours dans des assemblages très précaires. Et c'est justement quand Chloé a vu ces assemblages et qu'elle m'a dit que c'était aussi envisageable de les monter en direct devant les gens. Ce qui a été un défi, puisque c'est pas facile en fait de partir d'objets bruts pour en faire des constructions éphémères qui, à la fin du spectacle, vont redevenir des objets indépendants.
C'est quoi ta répétition à toi ? C'est de trouver cet assemblage, de refaire sans cesse les mêmes objets
dans le même temps ? Que ce soit hyper fluide.
Voilà.
Parce qu'en fait, on a l'impression que ce spectacle, il est un peu, il y en a plein qui sort de tous les sens. Sauf que c'est hyper timé. C'est-à-dire que par rapport à notre bande-son, par rapport au discours de Chloé, tout est vraiment millimétré. Et si dans la construction, moi, je prends un temps de retard par rapport au discours, en fait, ça fonctionne plus.
Faut que tu speed du coup.
Enfin, il faut que je speed. Non, faut pas que je speed parce qu'il faut que ça soit très fluide. Et il faut que le spectateur soit concentré sur le discours de Chloé, de Gudule, mais en même temps puisse voir mes constructions, mais en perdant à certains moments le sens de la construction, puisse revenir et fasse un aller-retour comme ça du regard entre le discours et la pratique et l'assemblage. Et donc du coup, moi, mon travail, il a été vraiment sur la fluidité des constructions, le fait que, et puis sur camoufler aussi tous mes assemblages, parce que il y a pas que des emboîtements, il y a aussi, on travaille beaucoup avec des aimants, des micro-aimants qui sont très puissants, qui nous permettent.
Il est en train de dévoiler tous les secrets.
Ouais, c'est un peu le petit secret du spectacle, mais bon, en même temps, c'est pas nous qui avons inventé les aimants, hein. C'est un outil comme un autre, mais qui est très, en fait, aussi lié à l'univers du maraudage. Parce que le maraudage, il se rapproche aussi de l'univers des ferrailleurs.
C'est bien parce qu'on n'a pas encore expliqué ce qu'était la maraude. Alors vas-y.
Ouais, en fait, il y a un mot plus connu que la maraude qui s'appelle le glanage.
Le glanage.
Il y a plus de gens qui connaissent ce mot, qui consiste à récupérer des matières ou des matériaux. Ou des fruits ou des légumes une fois que la batteuse ou que les gens ont ramassé tous les légumes.
Voire même, je l'ai lu dans la loi, que la période théorique de récolte est passée.
Voilà, c'est
ça. Si tu as un arbre entier qui n'a pas du tout été récolté mais que sa période est passée, tu peux y aller.
Tout à fait. Et donc ça, on parle du glanage. Le maraudage, c'est un tout petit peu différent puisque le maraud au 15e siècle était un vagabond voyageur itinérant qui travaillait le bois et fabriquait des boîtes en bois et vendait ces boîtes sur les marchés, sur tous les endroits, les foires où il pouvait vendre ses objets pour gagner un peu sa vie.
Et quelle destination ces boîtes ? Enfin, tout type de boîtes ?
Tout type de boîtes.
Bah, ok.
Ouais, c'était l'ancêtre de la tabletterie. On utilise ce terme à l'heure actuelle pour les gens qui fabriquent des boîtes. C'est donc des boîtes à cigares, des boîtes pour ranger des outils, des boîtes pour ranger des sculptures. Enfin, il y a essentiellement, il y a plein de possibles et d'imaginables autour de la boîte. Et donc le maraud était donc ce vagabond qui allait proposer ses services sur les marchés. Et il est devenu par extension quelqu'un qui était donc sur les routes et qui avait besoin de se nourrir et qui n'avait pas beaucoup d'argent. Donc il a commencé à aller piocher un petit peu dans les jardins et dans les vergers pour sa propre alimentation. Et donc là est venu le terme de maraudeur, qui pour des termes alimentaires, enfin pour sa subsistance, allait plus ou moins chiper dans les vergers et les jardins potagers sa subsistance pour survivre.
Voilà, et c'était un peu du coup un peu péjoratif quoi, le maraudeur, c'était pas forcément c'était un petit voleur.
C'était un petit voleur, mais qui a toujours juste pris ce qu'il avait besoin, et c'était essentiellement de l'alimentaire.
Ouais, le voleur de pommes, c'est ça.
Le voleur de pommes, et non pas le voleur de poules. Mais le maraud, c'est vrai que le maraudeur a préféré aller piocher la pomme sur l'arbre que de la récupérer par terre moisie. Parce que pour lui, c'était nécessaire de manger aussi de la nourriture saine, et il n'avait pas envie de manger les restes. Il avait aussi envie de s'alimenter correctement. Et à l'heure actuelle, nous, on pratique aussi le maraudage dans les poubelles de nos supermarchés bio et de nos supérettes bio. Ça nous arrive de nous retrouver, comme on est itinérant, et ben d'aller regarder ce qui se passe dans les poubelles des magasins bio, notamment. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de nourriture qui passe à la poubelle parce qu'il y a des dates de péremption qui sont très... très timé, et donc du coup nous aussi à notre manière on récupère aussi dans la nature, mais il y a une autre forme de maraudage maintenant qui se met en place, c'est celle dans les grandes villes notamment, des poubelles des magasins.
Il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle les Gaspilleurs à l'échelle nationale,
ouais.
Je sais pas si vous connaissez
ouais. Qui redistribue même gratuitement la nourriture qui
glane,
c'est très intéressant,
c'est
parce
très
que
intéressant,
c'est...
ouais.
C'est incroyable ce qu'on peut trouver dans les poubelles. Quand on lève le capot ces bacs en plastique, c'est phénoménal.
Quand on y accède aussi, hein, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Hein.
C'est vrai. Maintenant, c'est cadenassé, dans des parcs bien fermés. Mmh. Même les poubelles elles-mêmes sont
même
fermées.
Les déchetteries, hein, c'est
même les déchetteries sont sous vidéosurveillance.
Ouais. Ouais. C'est incroyable.
C'est la fin d'une époque, je crois.
Ce qui
est étonnant, c'est que ce spectacle, donc il y a des objets qui viennent du monde de la brocante, mais les trois quarts viennent de la déchetterie. Et c'est à un moment donné où moi j'ai pu accéder à la déchetterie, et maintenant c'est vrai qu'on peut plus trop y aller. Et donc c'était comme un bilan en fait de ce que j'ai pu récupérer à une époque dans une déchetterie, et leur donner une deuxième vie pour pouvoir les mettre au jour et les montrer à tous les gens.
Hein. On fera un musée de ce qu'on pouvait récupérer en déchetterie avant.
Pourquoi pas.
Alors moi j'ai beaucoup la pratique de la récup, et j'en arrive à un endroit où je commence à me demander comment on va faire pour changer de modèle de consommation, pour faire court, si on est encore en train de récupérer les déchets de l'ancien modèle dont on ne veut plus. Enfin, moi je ne veux plus de l'ancien modèle, et si je continue de récupérer les déchets de l'ancien modèle, je vais avoir beaucoup de mal de construire un nouveau modèle.
Oui.
Alors ça dépend, parce que là les choses qu'on récupère pour le spectacle, on dit que c'est des déchets, mais c'est quand même des déchets choisis quoi. Donc c'est que du bois, du métal, c'est que des jolies choses, il y a pas mal d'outils, de cordonniers, de menuisiers, des entonnoirs. Et bon, pour moi un entonnoir en alu, ça va, c'est pas. Enfin, si j'avais récupéré un entonnoir en plastique, là oui, je me dirais que je récupère les choses d'un modèle qui me convient pas. Mais ces objets-là, pour moi, peuvent fonctionner avec un modèle durable et.
Puisque de toute façon, nos ancêtres fabriquaient des objets qui duraient dans le temps. Ce qui, à l'heure actuelle, n'est plus vrai, puisqu'avec l'obsolescence programmée, chaque objet a une durée de vie limitée. Avant, c'était pas comme ça, c'était construit pour durer.
Et du coup, dans les déchetteries, aujourd'hui, on trouve beaucoup d'objets qui sont fabriqués pour ne pas durer.
Oui,
et
c'est vrai.
On a la possibilité d'entasser des objets qui viennent de ce modèle-là, quoi.
Alors nous, c'est quand même un petit peu le message principal de notre spectacle, hein, et des fois on le dit à la fin du spectacle, des fois on le dit pas, ça dépend un peu de notre humeur. C'est ok, en fait, si on veut qu'ils arrêtent d'en fabriquer, il faut que nous arrêtions d'en acheter.
Pour moi, et c'est... d'en jeter.
Et d'en jeter.
Si on les achète plus, on les jette plus.
Oui. Non, mais c'est notre pouvoir principal d'être humain et de consommateur, en fait. C'est de dire, ben, en fait, c'est bon, là, ça, on n'en a pas besoin, donc on le laisse dans votre supermarché, et ça reste dans votre supermarché, et vous vous démerdez avec vos trucs de merde. Et moi-même, des fois, j'aimerais bien trouver des gens pour faire ça avec moi. Faire des colis où on met tous les trucs made in China, made in Taïwan, et on leur renvoie là-bas, en fait. On le renvoie aux adresses des usines en leur disant, mais en fait, ça, nous, on n'en a pas besoin. Donc vous le gardez et vous vous débrouillez pour le gérer. Nous, on n'en a pas besoin, on en a déjà assez. J'aimerais bien faire ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de faire
tu
ça.
Je veux bien m'associer. J'ai une collection de bordel.
Il faudrait juste faire un partenariat avec la Poste parce que ça risque de coûter très cher.
Ouais. Et puis il faut trouver les envoyeurs parce que je ne suis pas sûre que... Comment dire, de le renvoyer là-bas, ça ne va pas arranger forcément le problème. Y a un problème de pollution là-bas déjà. Donc, faut vraiment trouver la cible. Ce qui me paraît terrible dans le monde dans lequel je vis, c'est qu'il n'y a pas de responsable, en fait. Et que
Nous les responsables.
Oui, on est responsables. Si tu veux renvoyer les produits qui sont fabriqués, ouais, tu les renvoies à qui? Il faut une adresse. Trouve une adresse. Et je te suis.
On va chercher. On va trouver plutôt.
Un dernier mot sur l'itinérance. On a évoqué un modèle de vie, un petit peu, la manière dont vous allez subvenir. On a parlé un peu de votre enfant. Quel modèle d'éducation populaire, je parle pas uniquement pour lui, vous développez, comment vous le défendez et comment ça se fait dans notre société qui est pas très pour ce genre de plan?
Alors, on est en pleine réflexion là-dessus, justement.
Il est encore tout petit. Alors...
Oui, il a un an.
Il ne devrait pas rentrer encore dans la période où il est obligé d'être éduqué. C'est ça?
Non, pas encore.
Il est éduqué, l'éduque tous les jours.
Instruit.
Instruit, pardon.
Voilà. C'est l'instruction qui est obligatoire et non l'éducation.
Pardon.
Donc, là, à l'heure actuelle, il nous reste 5 ans devant nous pour arriver devant cette problématique devant laquelle on ne pourra pas échapper, puisqu'à partir de 6 ans, les enfants ne sont pas obligés d'être scolarisés, mais sont obligés d'être instruits.
Un programme particulier. D'ailleurs.
En fait, on ne sait pas trop. On n'a pas encore la réponse. On rencontre plein de gens, d'autres gens, d'autres compagnies itinérantes qui ont des enfants. Alors, il y en a, ils font l'école à la maison. Il y en a, ils font l'école par correspondance. Il y en a, ils ne font pas l'école du tout. Et leurs enfants vont très bien. Peut-être même mieux que les autres. Non, en fait, nous, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse parce que c'est compliqué. C'est compliqué aussi de dire « j'envoie pas mon enfant à l'école » parce que ça veut dire « et tous les autres quoi ?» Ils se démerdent. Et puis, non. Donc, en fait, on ne sait pas encore. On se renseigne, on papote avec les gens autour de nous. Et puis, je pense aussi que quand il sera en âge de communiquer un peu plus clairement que maintenant, on lui demandera aussi, lui, ce qu'il a envie d'essayer. Et puis, je pense que ça va se faire comme ça, un peu au fur et à mesure, mais on se laisse plein de possibilités.
Pour ma part,
quoi.
En fait, moi, j'avoue que l'éducation nationale m'a aussi, à un moment donné, donné des clés pour réussir dans la vie. Et je ne vois pas que d'un mauvais œil cette institution. J'ai une mère qui est institutrice. Donc,
c'est pour ça.
Donc quelque part, si tu veux, je sais pas que je défends ce système parce que je sais pas trop comment il va évoluer et je pense que ça va aller de pire en pire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a du bon aussi à prendre dans ce système éducatif, même s'il n'y a pas que du bon. Et je pense que c'est bon qu'il y aille voir de lui-même aussi à un moment donné et qu'il fasse ses expériences. Mais par contre, nous, c'est sûr qu'on lui donnera plein d'autres clés pour faire des expériences en dehors de ce système. Et après, il choisira. Voilà.
Et d'ailleurs, au sein du City, donc l'association dont je parlais tout à l'heure qui défend les théâtres itinérants, on commence à mettre en place un groupe de réflexion autour de ça, de la vie de famille en itinérance. Donc forcément, dans la vie de famille en itinérance, outre les couches et les couches lavables et qu'est-ce qu'on fait dans la voiture, il y a aussi... la question de l'école. Donc voilà, c'est des discussions qui sont en route. Voilà.
Quels sont vos rêves?
Nos rêves, là en ce moment je pense qu'il y a un de nos rêves, ce serait de partir à la découverte du monde, parce que pour l'instant cette aventure des maraudeurs elle s'est essentiellement cloisonnée à la France, au territoire français, parce qu'on a, on a aussi un spectacle où ça parle français et que ça, le français est nécessaire pour comprendre aussi une partie du spectacle. Et là notre prochain rêve c'est de construire un nouveau spectacle où on pourrait se faire comprendre de tous. Sans distinction de langue, et donc de, voilà, de partir avec notre camion et notre caravane et puis et d'aller à la découverte des autres. Et je pense que
travailler
c'est...
le visuel ou l'onomatopée ouais.
Ou le mime ou...
Le mime. Ouais. En plus,
toi,
le...
t'as déjà un rôle muet.
Ouais, j'ai déjà un rôle muet, c'est vrai.
En plus, le spectacle vivant, c'est quand même la meilleure excuse pour voyager, en fait. Et, ben, c'est vrai, moi, je pense que dans un monde... Parce que il faut peut-être que je raconte aussi que moi j'ai beaucoup culpabilisé au début. Je me disais ma maison est tirée par un camion qui consomme comme pas possible, mais c'est terrible tout ce qu'on consomme comme pétrole et tout. Et puis en fait au fur et à mesure je me suis dit bon, dans les villages où on va ils peuvent pas se construire une salle de théâtre, donc c'est beaucoup moins polluant qu'en fait nous on vienne, plutôt qu'ils ramènent des milliards de camions de béton avec du sable et compagnie pour construire leur salle. Et en plus de ça je me dis, dans un monde rêvé où il n'y aurait plus de pétrole, peut-être que les seuls qui devraient continuer à se déplacer, c'est les colporteurs, les artistes, le spectacle vivant, en fait.
Oui.
Donc du alors, pétrole, plus que pour vous. Comme ça, nous, c'est on attend ça. La culture tranquillement dans nos petits villages.
Et nous, on vient chez vous et on raconte tout ce qu'on voit ailleurs.
Ouais. Ce qui était le cas à une certaine période.
Oui.
Voilà, ils avaient leurs chevaux, leurs charrettes.
Le théâtre des Tréteaux.
Bah d'ailleurs, dans le City, il y a des compagnies aussi qui voyagent à pied, à cheval. Il y en a qui sont en vélo, en péniche et en voilier. Voilà. Il n'y a pas encore de montgolfière. Appel à nouveauté.
D'ailleurs, à ce sujet, c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé sur Terre, mais que peut-être que l'un de nos rêves prochains aussi, ce serait de trouver un bateau et de naviguer un petit peu, parce que moi je suis l'orientais, donc breton, et je vous avouerai que l'appel de l'océan est des fois plus fort que tout, et qu'un jour ou l'autre peut-être qu'on craquera aussi.
Ah, c'est un bon moyen d'ailleurs de faire le tour du monde. Un site internet là, t'avais cité tout à l'heure,
maraudeur-et-compagnie.weebly.com.
voilà, comme ça on vous cherche et on vous programme.
Alors on a plus de Facebook, mais n'hésitez pas vraiment à envoyer les commentaires et tout sur l'adresse mail, en fait, ou même à l'adresse postale si vous voulez. C'est pas parce qu'on n'a pas de Facebook qu'on peut pas dire ce qu'on a pensé du spectacle. Voilà.
Et que vous n'allez pas y répondre quand même.
Et on y répondra encore avec plus de plaisir.
Oh. Merci à tous les deux. Bonne suite, puisque là après, c'est quoi, vous restez un petit peu du coup là, vous en profitez pour rester sur place quand vous êtes en.
On profite du festival. Après, on va voir des copains pas loin, et après, on part dans un autre festival en Suisse dans 3 jours.
Alors bonne Suisse.
Merci. Merci.
Et c'est donc avec la compagnie Maraudeur qu'on va terminer cet après-midi de direct. Depuis le festival Esquisse numéro 3, Tania, je t'ouvre un micro vite fait. Prends le jaune et je te dis merci.
Merci à toi.
Merci parce que d'abord, c'est effectivement ton initiative qu'aujourd'hui la radio soit présente sur ce festival. C'était une invitation bien agréable. Et c'est toujours, ça me permet de le rappeler un peu, un plaisir aussi de venir se déplacer dans le cadre des studios mobiles. Et donc de renouveler un petit peu à qui veut bien l'entendre. Que nous sommes disponibles, pas toujours parce qu'on a aussi des vies de famille, mais en tout cas disponibles à se déplacer pour venir participer avec vous et garder une trace de ce qui se passe. Et puis rappelez aussi que vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur le site internet d'RDWA, www.rdwa.fr, rubrique studio mobile ou événementiel, avec un spécial Esquisse Festival 3.
Et merci à RDWA.
Et bonne suite avec l'écoute de nos programmes.